Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 15 octobre, à quoi 21 jours des élections présidentielles aux États-Unis. On va essayer de faire un flash sur chaque semaine sur le temps restant, c'est-à-dire jusqu'au 6. Et on fait quoi? On fait cette émission pour faire quand même un peu un état des lieux des présidentielles, de la présidentielle. Alors, déjà, on a des éléments qui sont intéressants par rapport aux autres campagnes. C'est que les médias classiques sont plus ou moins disqualifiés cette fois-ci, parce que on s'est rendu compte, tout le monde a compris, hein, que c'était des forces négatives qui n'apportait pas vraiment les qui ne qui ne comment je vais dire qui ne retraçait pas à la réalité, encore que la réalité est difficile à retracer, si en plus les médias classiques, comme on le sait, sont du côté de la gauche. Alors, les gens ont compris un peu, donc les réseaux sociaux aidant. Les réseaux sociaux ont pris plus d'ampleur parce qu'ils arrivent à apporter une contre-vérité de ce que les médias classiques, qui avaient le monopole de la parole et de l'information, nous racontaient. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbock, et vous connaissez déjà, hein, bon, c'est la chronique politique de Radio Silence. Alors, on va commencer par les choses qui sont disqualifiées, hein, parce qu'il n'y a pas que les médias classiques, qui d'ailleurs, de toute façon, avaient commencé par des articles totalement biaisés. Et il reste de la société de presse qui est toujours qui est restée en pointe, alors sur une forme de haine, de détestation de Trump qui transparaît dans les reportages. C'est assez hallucinant. Mais on va pas insister sur eux. Personne ne les, enfin, on les écoute d'une oreille et on fait ses propres recherches, que ce soit dans les réseaux sociaux ou ailleurs, pour se faire une idée. Et comment dire, Kamala Harris, elle n'arrive pas à rattraper le momentum, hein, c'est-à-dire elle n'arrive pas à recoller vraiment. Dans la campagne, c'est-à-dire par rapport à Trump. Trump, lui, il est sur sa lancée, hein, donc on ne peut pas dire qu'il monte, qu'il descend. Il ne peut plus monter, il ne peut plus descendre. Il est sur une lancée victorieuse. Normalement, il a déjà dit ce qu'il ferait, ce qu'il ne ferait pas. Tout son programme, on le connaît. Et il me semble que dans ce que Trump dit par rapport à Madame Harris, il y a quelque chose que les démocrates fuient. Vous voyez, c'est le débat institutionnel. Ils le fuient parce qu'ils savent que si on va dans ce sens-là, ils ont tout faux. Ils ont mis à terre, ils ont supprimé la liberté de parler. Vous savez, avec vous savez, le round Covid, hein, tout ce qui s'est passé, ça sort maintenant. Ils ont supprimé, enfin, on dit la liberté d'expression, ils ont supprimé toute critique. Par exemple, du système judiciaire, par exemple, de l'armée à l'étranger. Et d'ailleurs, vous noterez que dans cette campagne, on ne parle pas de politique. On n'a pas parlé de politique étrangère et pour cause. Et pour cause, disons que l'effet Gaza, forcément, avec le génocide de Gaza, comment parler de politique étrangère? Ça va être terrible. Avec la guerre en Ukraine, comment parler? Donc, les démocrates, ils évitent les vrais sujets. Bien sûr, on pourra ajouter l'intelligence artificielle parce que je suis Bodor, peut-être que c'est moi, mais imaginons un instant que cette intelligence artificielle ait pour but de créer en fait une armée de soldats invincibles. Voyez un peu, et des pilotes qu'on enverrait comme ça, larguer les bombes sur d'autres pays sans courir le moindre risque de pertes humaines. Donc, ce n'est pas une petite affaire, cette histoire d'intelligence artificielle, si elle n'est pas encadrée. Alors, M. Musk nous dit que ah, c'est bizarre, hein, il soutient Trump. Et puis l'instant d'après, il nous sort ces robots qui seraient des robots peut-être d'une autre génération, qui sont des robots très gentils, genre ils vont faire des tâches ménagères, genre ils vont aider au babysitting, genre je sais plus à quoi, ils vont peut-être servir des cocktails. Non, c'est des bébés, c'est des robots. Tout beau, tout gentil, qui vont pas faire du mal, qui ne feront de mal à personne. Mais attendez, un robot qui va peut-être nous servir du thé, peut-être garder les enfants, peut-être faire la vaisselle, je sais pas, tâches ménagères, je sais plus ce qu'il a dit que les robots allaient faire. Ça, c'est pour la upper class. Je veux dire, au niveau des économies. Babysitter, oui, pour la classe moyenne, je ne sais même pas. Vous rendez compte, vous pouvez laisser votre enfant à un robot, quoi. C'est du délire. C'est pas possible. Donc, pour qu'il fasse des tâches ménagères, oh, enfin, je ne sais pas, les robots de Musk, moi, ça ne me convainc pas. Donc, moi, ce que je dis, c'est que derrière tout ceci, il y a sûrement et certainement un agenda caché. Mais passons, mais ça, c'est des sujets que la gauche et les démocrates ne veulent pas aborder. Elon Musk a dit qu'il a rejoint Trump pour lutter contre la liberté, contre la suppression de la liberté d'expression, et que c'est d'ailleurs pour cela qu'il a acheté Twitter. OK. Mais après, une fois qu'on a dit ça, lui, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. C'est les autres qui sont candidats, notamment les démocrates. Comment on maintient la liberté d'expression? Ça, c'est un problème quand on sait, par exemple, parce que ça va toucher, hein, pour la question du Covid. On va toucher la corruption dans le milieu de la recherche. Il ne s'agit pas seulement de dire que les chercheurs sont corrompus ou que les médecins étaient corrompus pour écrire sur le Covid, mais il s'agit, un, déjà, d'empêcher cela. Quelles sont les mesures qui vont permettre d'empêcher ces sortes de collusion d'intérêts? On ne parle pas de ça. Quelles sont les sanctions derrière? On ne parle pas de ça. Déjà, on a vu comment le FBI, même déjà la CIA, sont parfois compromises jusqu'au bout. Et quand Trump affleure la question en disant qu'il va démanteler le Deep State, il faudra aller plus en profondeur. Mais les démocrates ne vont pas aller plus en profondeur parce que on va toucher au Covid, au scandale du Covid. On va toucher, qui fait d'ailleurs que Kennedy a rallié Trump. On va toucher à la malbouffe. C'est gros complexe, c'est pareil. On va toucher à des sujets qui ne vont pas plaire aux démocrates. On va toucher aussi, ce faisant, tous les obstacles, vous savez, les barrières invisibles dont on a un peu eu un aperçu lorsque les étudiants de Harvard se sont soulevés contre le génocide à Gaza et qu'ils ont fait des sit-ins au niveau des facs, et que la réponse de l'autre côté des employeurs, c'était oui, ben attention, nous sommes en train de relever des noms, c'est genre comme ce sont eux, comme par hasard, qui cumulent les positions dominantes, donc ce sont eux qui sont entrepreneurs, ce sont eux qui embauchent. Et alors vous qui faites les études à Harvard, vous êtes destiné donc à être employé enfin, employable, on va dire, dans ces grandes sociétés. Alors si maintenant vous êtes déjà fiché, c'est foutu. Et il y a tellement de barrières visibles et invisibles qui font qu'on n'a pas les vrais débats dans cette présidentielle. Et alors on veut nous ramener des choses comme l'immigration. L'immigration, c'est important. On va ramener, vous savez, les thèmes de la campagne. Classique, c'est quoi? C'est souvent la question des femmes avec l'avortement, la question, bien sûr, des minorités et le vote black qui est toujours. En fait, le vote black, c'est quelque chose de. C'est plus un symbole, hein, parce que les blacks, ils représentent quoi comme force? C'est un vote marginal, mais c'est symbolique. On a le vote black, l'Amérique, quand elle a un problème, bon, elle est black, quand il n'y a pas de problème, bon, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans le vote black, ça porte pas conséquence. On dit que oui, parce qu'il est marginal, justement, c'est pour cela qu'il est important, parce qu'il peut faire la différence, mais bon, vote black, les latinos sont probablement plus nombreux que les Blacks, il y a les Indiens, il y a, je dis, on ne voit pas les sous-catégories. On verrait que les Blacks, c'est pas ça, c'est pas cette variable marginale qui fait vraiment la différence, mais ça fait partie de la narration. Ah, par contre, on parle moins du vote jeune qui va faire problème, parce que le vote jeune peut résonner avec la question de Gaza, puisque majoritairement ils étaient contre, et du génocide. Après, il reste quoi? L'inflation. L'inflation, c'est trop technique, et c'est aussi le sujet où on peut tromper les gens à volonté. D'ailleurs, deux associés de presse nous sortent un article aujourd'hui sur, oui, le programme de Trump pourrait créer plus d'inflation, pourrait rendre l'inflation encore pire qu'avec Harris ou Biden. Bon, ça c'est après, vous rentrez dans une nébuleuse, c'est pas technocratique. L'inflation, à la limite, ce sont des choses, ça c'est comme les impôts. Quand un système semble fonctionner dans le meilleur des cas possible pour tout le monde, oui, les impôts, l'inflation sont supportables. Mais ce qui rend tout ça insupportable, c'est les dysfonctionnements et les faveurs et les avantages et les obstacles pour les autres. Donc, on n'est pas vraiment dans le sujet, on contourne. Et bon, après, on a l'immigration. L'immigration, c'est important parce que c'est. Bon, Monsieur Trump, quand il parle un peu de malbouffe, d'immigrés qui mangent les rats, enfin, de ceux qui sont arrivés, les rats et les chiens, bon, c'est pas grave, ça c'est. Je ne vais pas dire que c'est petit, parce que là, on va sauter tout de suite dessus et dire oui, mais vous voyez comment ils traitent les gens. La réponse est facile, ils traitent les autres de sous-ceci, sous-ceci. Bon, à Gaza, c'est pire. Mais ce qu'il y a dans l'immigration qui est probablement intéressant, parce que ça rejoint quand même une certaine forme de pratique politique assez biaisée, hein, c'est que les démocrates ont toujours en tête de tricher. Alors, dans leur triche, cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que des citoyens étrangers arrivent comme ça, par le Texas, vous avez vu, en file indienne, pour renforcer le vote démocrate, puisque apparemment, dans certains États, on pourra voter simplement sans contrôle de la citoyenneté, vous voyez, juste avec une carte, vous venez vous voter. Donc, ils ont compté sur ça, et ils ont compté aussi sur. Un programme de Biden qu'on appelle le Parole Programme. De Parole Programme, c'est un peu comme un programme de réfugiés, en fait, qui concerne donc les Haïtiens, les Cubains, les Nicaraguas et les Vénézuéliens. Ah, quand même, c'est énorme, hein, vous savez, le Venezuela et Cuba, ils ont une histoire assez mouvementée avec les États-Unis. Alors qu'on fasse maintenant un programme pour eux spécialement, programme qui date. De 2022 et qui a été renforcé en janvier 2023, octobre 2022, et puis renforcé en janvier 2023. C'est une façon bizarre de stigmatiser ces pays comme étant des pays à risque, et donc on recevrait les réfugiés, sauf que pour être éligible, soi-disant, c'est écrit comme ça, il faut avoir un garant sur le sol américain, quelqu'un, un représentant. Et puis il y a des contrôles à faire derrière pour voir si vous êtes de bonne moralité et tout et tout. Bon, il y a tout ça et moyennant quoi, si tout c'est bon, vous pouvez venir. Et lorsque vous venez, vous avez droit à tout. Vous avez droit à un permis de travail, vous avez droit aux avantages, à la sécurité sociale, aux bénéfices sociaux, d'autres même peut-être droit au logement. Ça crée tout un débat. C'est bien d'avoir ce côté humanitaire parce que c'est ça le problème de Biden, de paraître humanitaire d'un côté alors qu'on commet le génocide de l'autre. Et ces signaux assez flous comme ça envoyés, ce parole programme, on n'en parle pas beaucoup, pourtant il fait rentrer 30 000 immigrants, notamment les Cubains, pareil, il y a déjà eu 7 millions et sur les 7 millions, 1 million de Cubains. C'est pour vous dire. Donc, ils rentrent tous les mois et ça, ça fait l'objet, bon, des procédures judiciaires. Là, il y a des États qui se plaignent déjà. Mais toujours est-il dit qu'il y a, il y a 7 millions de personnes environ qui sont entrées. Ce programme de Biden, des réfugiés, on n'en parle pas. Parce que, quand même, ça pose des questions pour les homeless, ceux qui n'ont pas de maison et puis qui voient les autres arriver, réfugiés, qui sont logés. C'est bizarre, qui ont droit au bon alimentaire, qui c'est toujours ça. Il y a un peu ce problème en France, qu'on essaie de gérer comme on veut, mais les réfugiés vivent très bien. Ils ont même de l'argent de poche tous les mois en attendant de trouver un travail, un emploi. Ces choses-là, c'est pas débattu, c'est pas tellement popularisé, puisqu'on dit que c'est humanitaire. Et puis vous savez, si c'est les démocrates qui vous disent que c'est humanitaire, bon, allons bon, on accepte, c'est humanitaire. Sauf que c'est pas très clair tout ça. Et c'est vrai que ajouté au scandale du Texas, des gens qui passent comme ça, alors là, c'est vraiment l'immigration sauvage, ça fait du monde. Et on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, Madame Kamala Harris était là. Qu'est-ce qu'elle peut dire sur ça? Rien. Donc, le débat, il est comme ça. Les démocrates évitent tout ce qui fâche, c'est-à-dire que leur bilan, ils ne veulent pas en parler. Ils font comme s'ils vont apporter des choses nouvelles, mais lesquelles? L'avortement pour les femmes, c'est pas nouveau. Ce procès a déjà été 1000 fois fait. Ça n'intéresse plus vraiment personne. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et Madame Kamala Harris, elle n'a pas vraiment de programme, en fait. Elle peut pas, elle n'a rien de nouveau à apporter. Précisément dans le débat, il n'y a rien de nouveau. Et puis on a alors maintenant la chasse aux voix. La chasse aux voix. Bon, comment on va aller récupérer les indécis? Comment on va aller récupérer les déçus du système? Voilà. Alors, dans la catégorie des indécis, justement, il y a les indécis, il y a les déçus du système, bien sûr. Il y a les indépendants, comme on dit. Donc, Monsieur Kennedy et Monsieur Musk peuvent apporter ceci. Il y a les primo-votants, ceux qui votent pour la première fois, et dont, justement, ces immigrés de la Biden parole programme, réfugiés. Et il y a les classes qui sont un peu poreuse quand même à ce que disent les médias, vrai ou faux, ce sont donc les jeunes et puis les classes populaires. Et il y a aussi les réfractaires carrément au vote. On a vu que 25 millions de chrétiens ne vont pas voter et 15 millions ne sont pas inscrits. Et il y a carrément ceux qui voteront jamais, comme les témoins de Jéhovah. Eux, ils sont contre carrément, il paraît qu'on vote que dans le royaume des cieux. Bon. Alors la chasse aux indécis est déclarée. Et aux abstentionnistes, bien sûr, ça se rejoint un peu, sauf que c'est sans programme en fait, c'est sans thème de campagne fort qui permette de dire bon, je vais choisir l'un, je vais choisir l'autre. Bon, l'immigration, l'inflation, qu'est-ce qu'il y a souvent de classique, les femmes. Après, là, Barack Obama nous la ramène. Et puis même d'ailleurs, deux choses ont été disqualifiées avec les médias. C'est les médias classiques, bien sûr. C'est la race, le débat sur la race, c'est le débat sur le genre. Je sais pas, quand Barack Obama arrive là, ces derniers temps, il fait une sortie parce que les démocrates seraient un peu en train de se poser des questions s'ils ont bien fait de changer Joe Biden, déjà qu'il ne devait pas être lui le candidat parce qu'il y avait des Kennedy et bien d'autres propositions alternatives. La race et le genre, ça s'est disqualifié. La race, les blacks qui viendraient voter, bah, attendez, ils prennent les blacks pour qui? Pour des Tintins. C'est passé ça. Le black aujourd'hui, c'est qui? Le black aujourd'hui, c'est qui? C'est celui qui admire les gars de la, qui faisaient le rap, qui admire un peu tout ce qui est bling-bling en fait. C'est ça le rêve du black aujourd'hui dans son ghetto, le bling-bling. Et ce bling-bling, on s'en fout s'il est gay, s'il est pas gay. S'il est blanc ou noir, ou indien, s'il est, et d'ailleurs même, vous voyez, en parlant de la disqualification de la race. Madame Kamala Harris, elle est plus indienne qu'autre chose, mais on s'en fout qu'elle soit indienne, qu'elle soit noire, qu'elle soit ce qu'elle veut. Ça, c'est plus le problème. La race est dépassée. Le genre aussi est un peu dépassé dans ce sens qu'on a trop parlé de ces LGBTQ, tout ça. Ça fait l'objet d'un débat déjà dépassé. Et puis on arrive sur un point. Si les chrétiens sont d'accord avec ça ou pas. Alors rien que sur ce vote, sur cette question du LGBT qui a déjà été débattue, et on ne peut plus en revenir là-dessus, peut-être que les chrétiens, pas peut-être, probablement que ça fait ce réservoir de voix des chrétiens pour M. Trump. Enfin, ça le justifie, en fait. Ça justifie aussi ceux qui peuvent être déçus du système, mais à la limite, ce n'est plus trop, ce n'est plus si clivant que ça, enfin que cela l'était au temps d'Obama. Ça, c'est les thèmes d'Obama. Ça, quand Obama était candidat, la race, le genre, l'inflation, le chômage ou encore l'avortement. Ça, c'est tout ça est dépassé dans cette campagne. C'est ce que les démocrates ne comprennent pas. Et qu'ils n'ont peut-être pas prévu que bah, tout ça est déclassé. Et on va donc parler de quoi? On va parler de ce dont on évite de parler, du débat institutionnel et de comment faire avancer la politique. D'ailleurs, il y a deux choses dans cette politique. C'est d'abord, c'est déjà que AIPAC, ce lobby qui faisait la pluie et le beau temps pour les élections, s'est caché avec le problème avec le génocide de Gaza. AIPAC n'est plus visible. Bien sûr, AIPAC, comment on va dire, c'est recyclé dans les dons qui sont faits, les dons insolents qui sont faits à Madame Kamala Harris. Madame Kamala Harris a déjà 1 milliard de trésors de guerre, quand même. Mais cela n'empêche pas de demander 5 euros par-ci, 10 euros aux gens. Je ne sais pas jusqu'où ces gens peuvent être satisfaits. Et ce sont des donneurs, enfin des donateurs, je ne sais plus, hein, je m'embrouille là parfois avec l'anglais, le français, qui sont plus ou moins anonymes. Mais on sait que c'est des grosses sommes qui arrivent parce que là aussi, l'Amérique n'a pas su mettre des limites et choisir entre le financement populaire et le financement de ces millionnaires cachés qui ont cet agenda qui fait d'ailleurs que tout est sens dessus, sens dessous. Et c'est un problème, on ne peut pas non plus dire que c'est l'un ou l'autre, mais quand même, il faut un peu de morale là-dessus. Quand Kamala Harris, elle a son milliard, elle peut quand même s'arrêter de solliciter encore, de presser encore, pressurer. Le petit démocrate dans son coin pour qu'il lui envoie 5 euros. En fait, ça aussi, c'est bizarre, vous savez, des choses. C'est des réflexes, c'est des vieux réflexes qui les animent, alors que ça marche plus. Avant, quand vous aviez comme ça cet argent, l'argent disait que c'est vous. Enfin, l'argent était un signe avant-coureur de votre succès. Donc, celui qui avait plus d'argent était déclaré le potentiellement vainqueur. Mais Kamala Harris, probablement, je ne sais plus, qu'elle a plus d'argent que Trump, est financée par des artistes et tout, et tout, et tout. D'ailleurs, les artistes ne financent plus parce que ça va comme l'artiste Taylor Swift qui s'est hasardé à financer Madame Kamala Harris. Et puis, le concert d'après, il n'y a personne qui a acheté les billets, presque personne, parce que, voilà, c'est fait, c'est clair, ça s'est vu. Donc, il ne faut pas trop s'afficher comme donateur, il faut un peu se cacher. Il y a cet argent, avec cet argent, on devait se dire, mais elle a partie gagnée, elle a plus d'argent que Trump, donc c'est l'adhésion populaire. Faux, c'est l'adhésion du 1% qui vit très bien et les gens sont plus dupes. Hein, et donc ça fait que il faut parler des vrais sujets. Même le ralliement de Bush, de Cheney et de Romney, qui sont des républicains classiques, à la cause démocrate, n'a pas eu d'influence. Mike Pence avait dit que lui, il ne voterait pas Trump. Ça, il l'a dit depuis le début. Pff, aucune incidence. Oui, c'est pour ça que les démocrates peuvent être embêtés. Parce que tous leurs trucs là, les jeux pour les combines politiques, ça ne marche plus. L'argent roi, ça ne le fait pas. ça ne fait pas rebondir Madame Harris dans les sondages. À partir de rien, elle apporte rien, à partir de rien de nouveau. Et d'ailleurs, un coup, elle est d'accord avec le bilan. Un autre coup, elle ne sait plus s'il est d'accord avec le bilan. Bon, il n'y a pas de dynamique hein, dans la campagne d'Harris. Il n'y a pas de dynamique parce qu'il y a... Il n'y a pas une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire la politique. Or, c'est ce que les gens demandent. Pourquoi? Parce que cette nouvelle approche, nouvelle façon de faire la politique, va empêcher les scandales du Covid, les scandales de l'intelligence artificielle, les scandales du harcèlement politique qu'on a vu chez Trump, les scandales de Biden, vous voyez le silence sur la corruption du président Biden qui est arrivé, et puis son fils, et puis on n'en parle plus. Tout ça, la malbouffe, le Big Pharma, beaucoup de choses dont on devrait parler, mais on n'en parle pas. La réorganisation d'une société totalement repensée, pas dans le sens du nouvel mondial, du nouvel ordre mondial, non, mais différemment, différemment. Alors là-dessus, on a une cerise sur le gâteau, c'est P. Diddy. Wow, P. Diddy est arrivé, et qu'est-ce qu'on voit? Bon, je ne sais pas pourquoi on le prend en ce moment, mais lui, il vient justement démonter. Question de genre, démonter la race, démonter les passerelles entre ce qui est prostitué et ce qui est non prostitué, démonter la passerelle, le clivage black-noir, indien. C'est-à-dire que P. Diddy, dans ses partis, regroupait tout ça. Les noirs, les blancs, les artistes, les sportifs, les gens de Hollywood. Tout ça était là-bas, les prostituées, les top modèles. Et c'est pour ça qu'après, pour être plus sérieux là, on a vu des chefs d'État épouser des top modèles, des prostituées, tout ça, mais des choses qui semblaient improbables. Mais c'est que ces gens-là se retrouvaient dans ces partis, y compris d'ailleurs même les gens de la société, enfin, les rois, hein, vous voyez, les royautés de ceux de les principautés de ce monde. Et le genre ne peut plus jouer parce que là-bas, voilà, ça il se jouait des parties, des orgies entre qui voulait et qui voulait. Si vous voyez ce que je veux dire. Les femmes, tout ce qu'on voit, c'est que les femmes, et ça, Madame Harris, le côté femme, Obama arrive, oui, il parle au black, c'est pas Dara qui lui a dit parle au black, parce que lui, il est déjà, c'est prouvé, il est gay, lui et son épouse sont des gays notoires, on en parle, on s'en fout, mais lui, il est qui pour venir parler au noir maintenant, déjà qu'on sait comment il est arrivé là, c'est toujours des arrangements, il vient leur dire, oui, mais vous êtes noir, si vous votez pas démocrate, la rengaine, hein, la rengaine, les républicains vont vous terroriser et tout, et tout, et tout. C'est absolument hallucinant. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être noir ou tout? Voilà qu'on arrive avec P. Diddy qui démontre tout ça, qu'être noir. Non, en fait, on sait bien que P. Diddy n'a pas agi seul, il a agi avec derrière lui, ce sont les grosses têtes, bien blanches. Et les Noirs se sentent même, c'est bizarre, c'est pas P. Diddy quand on dit qu'il y a eu ces rapports bizarres gays, c'est pas un blanc qui allait, comme au temps d'avant de l'esclavage, faire ça à un esclave. Non, Noir. C'est vraiment entre les Noirs, consentants et non consentants parfois. Parce que figurez-vous que cette histoire de P. Diddy montre que pour avoir un award musical, il fallait sa caution, sinon vous ne l'aviez pas, et sa caution était liée à votre acceptation de venir à ces invitations et de faire certaines choses, plus ou moins interdites. Et là-dessus, Kamala Harris, qui est une femme, puisque Obama finit par dire, oui, ben attendez, si les Noirs ne votent pas, parce qu'il prend, il prend encore, il a une conception arriériste du Noir, hein, c'est parce que Kamala Harris est une femme. Ça aussi, c'est fini. On a eu cet engouement, cette narration avec Hillary Clinton, oui, c'est une femme, première femme, présidente noire des États-Unis, au demeurant d'ailleurs, si on regarde d'après ce qu'on lui dit du couple Obama, ce serait Michelle qui était la première femme black, enfin, première femme black transgendre des États-Unis, puisque c'est elle qui était le mari, et Obama était. Bon, enfin, c'est une histoire de fou. Histoire de fou, toutes ces choses sont de notoriété publique, c'est plus caché. Donc quand vous arrivez, vous dites, beaucoup d'acteurs d'ailleurs, je suis aujourd'hui, sont trans, c'est-à-dire que des femmes sont devenues des hommes sont devenus de naissance, des femmes de naissance sont devenues des hommes de naissance sont devenus des femmes. Moyennant quoi, vous avez ces artistes qui ont beaucoup, sont allés en Afrique récupérer des noirs, en fait, et ont fait pareil, les garçons sont devenus des filles, les filles sont... C'est devenu une secte! Mais une secte qui a prouvé tout son... Je veux dire, on sait c'est quoi. Et puis, soit vous êtes avec, soit vous n'êtes pas avec. Et on vous dira même qu'il y a certains, parce qu'il y a une morphologie hein, féminine, un peu des fesses. Donc, si vous êtes un homme, une femme devenue homme, vous êtes obligé de vous habiller d'une certaine façon pour qu'on ne voit pas trop votre bassin qui... Alors, ça fait que, vous avez ces couples gays. C'est une fraude. Parce que vous avez donc un homme qui est devenu une femme qui va se marier à une femme qui est devenue un homme. Donc c'est un mariage classique. C'est incroyable, hein? Et on vous présente ça comme étant un truc gay. C'est pas possible. Alors, Kamala Harris, s'il est vraiment une femme, vous voyez, c'est pas Obama qui devrait venir parler de la question féminine. C'est elle, et pas par rapport à l'avortement, ça s'est passé, on est pour, on est contre, mais par rapport... Ah déjà, ce qu'on a vu là en prenant le cas de P. Diddy, la femme c'est devenu quoi? Voilà, une prostituée, bonne pour les orgies. La condition féminine qui était partie, c'est vrai, d'un féminisme qui était le début de l'indépendance de la femme et qui était normale, et l'émancipation, et qui après. Est peut-être arrivé à un durcissement de cette condition qui a amené l'égalité homme-femme un peu de façon brutale et puis jeu entre hommes-femmes qui était plus très très sain. Bon, ok, d'accord. Maintenant, si on veut assouplir cela, revenir à une complémentarité, comme on a dit, être d'accord là-dessus, et c'est d'ailleurs la réalité, c'est pas en faisant de toute femme d'abord une prostituée avant qu'elle ne puisse avoir accès à la reconnaissance publique. Ce qui serait d'ailleurs le cas de beaucoup de femmes politiques, mais ce qui est. Donc, celle, je ne vais pas parler. Mais, enfin, vous voyez, cette façon-là, cette promotion, on est revenu à c'est l'esclavage sexuel, c'est même pas c'est quoi ça. Hein, la femme est devenue une vraie chose dans les mains du nouvel ordre mondial, mais ça, cette question féminine est toujours posée dans le sens de l'avortement, non, c'est réducteur. Si Madame Kamala Harris était une femme, moi j'ai toujours dit que j'avais écrit ça dans un, j'avais fait un magazine, magazine citoyen avec des jeunes d'un lycée, et je disais une femme politique est un homme politique. Mais un peu, c'était un jeu de mots, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon féminine d'aborder la chose politique, ce qui est d'ailleurs dommage parce qu'il devrait. S'il n'y avait pas eu ce formatage, dont on parle beaucoup en matière d'éducation et tout cela, mais on ne va pas dévier par là, de ce côté-là, on va juste dire que on a une campagne qui est mal barrée pour les démocrates. Les thèmes démocrates sont tous en porte-à-faux. Il reste que, franchement, là-dessus, moi j'ai dit avantage à M. Trump qui. Parle, qui aborde sans aller plus loin, parce qu'il n'y a pas de débatteur en face, ni de contradicteur, tout le monde fuit ses débats, qui aborde la question et il marque, et il le dit haut et fort, il va décapiter le deep state. Il faut décapiter le deep state parce qu'il faut qu'on arrête. Je ne vais pas dire le clonage institutionnel, parce que c'est ça le deep state. Ça fait que le FBI, la CIA, le Sénat, la House, tout le monde est aligné, parfaitement aligné sur les mêmes positions, comme des clones ou des clowns ou des intelligences artificielles. Donc le débat, les débats qui devaient avoir lieu, me semble-t-il, n'ont pas eu lieu, ne peuvent même pas avoir lieu parce que ça, ce sont des débats qui appellent, qui mettent hors jeu directement tout ce qui est journaliste parce qu'ils comprennent pas et ils sont de parti pris. Ça appelle une expertise autre, ça appelle un débat entre experts, entre scientifiques. Les scientifiques ont d'ailleurs reconnu tout le mal qu'il y avait dans le Covid parce qu'on y excluait. Hein, et on voit ça aussi dans les nouvelles technologies, nos téléphones et tout, on inclut des microparticules dans les vaccins qui font que. Non, enfin, vous connaissez la musique, qui font que quand le vaccin arrive, ce n'est pas le vaccin qu'on vous injecte, c'est plutôt c'est cette nanoparticule qui va enregistrer tout et puis vous êtes contrôlé de dedans. Ben, c'est un viol des foules. Comme disait Serge Chakotin, c'est un viol, carrément. Et ça, personne n'en parle. Il y a trop de sujets dont on devait parler, on ne parle pas. Donc, parce que toute la classe qui doit parler de ça n'est pas là, n'a pas eu accès aux médias. Il faut amener les intellectuels, il faut amener les penseurs, il faut amener les experts, il faut amener les scientifiques. Et ça, vous pensez que les médias sont pleins, les journalistes qui veulent tout. Veulent toujours s'accaparer de tout le champ du visible. Vous pensez qu'ils sont prêts à céder? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ceux qui leur donnent l'autorisation de faire les programmes vont accepter cela? Mais c'est de ces débats-là dont on a besoin pour une nouvelle société, qui ne soit plus seulement vue sous le prisme, vous savez, du standard divin, comme je vais le dire. Non, on va sortir du standard divin pour encore que. On peut rester dans ce standard divin et l'interpréter autrement. C'est ça le problème, en fait. Jusqu'à présent, le standard divin, on l'a interprété en termes de supériorité, de ci, de ci, de ça. Et là, je ne parle pas d'une forme d'égalité ou d'égalitarisme. Non, non. On reste dans les différences, mais on reste surtout dans une forme de projet commun. Projet commun. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde, tous ces débats, peut-être qu'on les fera après la campagne, parce que c'est ça qui va révolutionner et changer les choses. Si pas du tout ces petits trucs catégoriés à l'épicerie, immigration, inflation, je sais plus c'est quoi là, tous ces petits trucs, avortement, même LGBT, pff, ça c'est des sous-catégories d'un programme plus. D'une plus grande ampleur que nous devons avoir. C'est pas, si vous parlez de l'immigration, oui, à un moment donné, oui, mais après, on va arriver au prix des maisons, l'assistance sociale, tout et tout. Bon, c'est pas très intéressant, ça. On n'en est plus là, on n'en est plus là, on est ailleurs. On est ailleurs où il faut distinguer un peu, faire un peu de clarté, distinguer le vrai du faux. Si un homme devient une femme, mais qu'il le dise. Si une femme est devenue un homme, qu'elle le dise. Et puis, bon, on va suivre les choses de façon plus claire. Un vaccin ne doit pas se présenter comme un vaccin alors qu'il est là pour un autre projet qui serait peut-être de contrôle, qui serait peut-être d'eugénisme, qui serait peut-être de créer des maladies aux gens ou de se servir de ces gens comme des cobayes de façon involontaire. Et je repense, le professeur Montagnier est mort pourquoi? Il était le premier à dire qu'ils ont retrouvé des ADN de sida dans le vaccin, ce qui était très grave, donc ça le rendait mortel. Une façon d'inoculer le sida aux gens en disant que c'est un vaccin. Il a été tué, enfin, il a disparu très vite après. C'est tout ça. Et où sont les enquêtes? Je veux dire, la police est où? Criminelle, la justice est où? Quand tous ces savants disparaissent comme ça, dès qu'ils découvrent quelque chose, dès qu'ils disent la vérité, on les élimine. Enfin, on les élimine puisqu'on voit qu'ils sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'affaire PDD va. Dans ces développements, parce qu'ils sont vraiment foudroyants, puisque ça se connecte au réseau Epstein. Pour le moment, on n'a pas beaucoup cité les politiciens, mais Obama, justement, est cité par une qui était au parti des PDD, qui ose même dire qu'il a voilà, un truc très bien, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde, un point sur l'élection présidentielle américaine à 3 semaines, des élections. On va essayer de faire l'état des lieux comme ça, mise à jour, afin qu'à la fin, nous ayons comme ça un portrait global de la présidentielle. Je vous dis à bientôt.